Vous écoutez
RMC.
RMC.
J'ai annoncé aussi l'arrivée, faut pas que je me gourde, de Tata.
Grosse à nous.
Ratti, là, tu la baraque et puis Marquitos.
Les clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le Barca.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Bienvenue dans l'after, tout le monde en direct jusqu'à minuit comme tous les soirs et 24 heures sur 24 en podcast, toujours avec Kevin Diaz et Jonathan McCarty nous rejoint. Salut Jo.
Bonsoir DJ Giangrande.
Pourquoi ?
J'ai décidé que t'étais DJ maintenant.
Pourquoi ?
C'est toi qui as les meilleurs goûts musicaux de l'émission.
Évidemment. D'accord. Donc c'est un rapport à mon âge, c'est ça ?
Quel âge ? Pourquoi tu fais des rapports ?
Je sais pas, non, tu me.
DJ Giangrande.
D'accord. Un DJ, mariage, un DJ des années 80, tout,
ouais.
Quoi, c'est ça ?
Maître Gims, etc. Ouais. Ouais, on a compris. Hein.
Tu viens de dire Maître Gims, ça dit
Gims. Non, mais c'est pas Jean-Michel Aulas qui avait dit Maître Gims et DJ Snack.
C'est comme ça que tu vas t'en sortir. Ouais, 22h50, 30 septembre, Jonathan McCarty a dit Maître Gims. Ouais. D'ailleurs, sache qu'on ne dit plus Maître Gims. C'est Gims tout court désormais.
Ah ouais, il a atteint la postérité.
Et il a
avec le chef-d'œuvre dont vous salissez mes oreilles chaque semaine.
Écoute, Najib et Daniel sont en régie. Si jamais à un moment donné dans la soirée ils veulent nous mettre un petit Gims de côté.
Merci.
Par exemple,
Gims du coup.
Voilà.
Kev est très tolérant et tout, mais je pense que même Kev trouve que c'est là.
Bah écoute, si vous voulez, on testera en fin d'émission. C'est le film de la Coupe du Monde quand même, Gims.
Ouais, non, avec Ozuna. De la Coupe du Monde, ça va, c'est la Coupe du Monde.
Merci d'être là ce soir dans l'after. Nous sommes vendredi le 30 septembre, un jour à part pour tous les amoureux de foot que nous sommes. C'est-à-dire que si on aime le foot et qu'en plus on est un peu geek dans l'âme, voilà, vous m'avez compris, c'est sorti d'un jeu de foot qu'on aime tous. Donc merci d'être là. Je sais que vous êtes nombreux ce soir à avoir mis les applis, à avoir mis RMC, vous êtes manette en main.
Peut-être. Voilà, merci
d'être avec nous.
Pour ceux qui en ont eu,
voilà.
Parce que c'est ça, non ? Pas compliqué à avoir, c'est ça quand ça sort ?
Ah bah il suffit, oui, il fallait au magasin et puis tu prends la boîte.
C'est vrai que des fois il y avait des ruptures,
Oui, non, mais en plus tu sais que maintenant tu peux l'acheter directement en ligne. T'as pas besoin d'aller acheter ton Blu-ray.
Vous êtes définitivement moderne, monsieur Jean.
Ouais, on est surtout beaucoup trop geek à mon goût et au goût de madame. Bref, on va dans un instant débriefer cette victoire de l'OM 3-0 à Angers pour ouvrir la 9e journée de Ligue 1. Soirée parfaite pour l'OM. Bah tiens, lâchez la manette, prenez le téléphone 32-16, n'hésitez pas à venir débriefer ce retour de l'OM après cette trêve. Donc il s'est très bien passé ce soir, 3-0 avec un grand Jonathan Clauss ce soir, notamment dans son couloir gauche. On va débriefer donc cette victoire.
Pas que.
On va prendre le temps de débriefer. Et puis supporters Angers aussi, n'hésitez pas, le 32-16. Est-ce qu'Angers, après deux victoires de suite, retombe un peu dans cette travers? Il y a eu un bon début de match et puis ça a été compliqué après l'ouverture du score de l'OM. Bref, le 32-16, le Paris Saint-Germain également au programme ce soir et probablement une grande première demain contre Nice. Hugo Ekitike devrait débuter. Mbappé sur le banc. Est-ce que Galtier fait une erreur ? Parce que c'était peut-être l'occasion de tester les deux ensemble. On sait que Mbappé a réclamé pendant la trêve un 9. Il a dit qu'il se régalait avec Giroud, qu'il était plus libre sur un profil qu'il n'avait pas. Est-ce que ce profil, c'est pas Ekitike finalement ? 32-16 là aussi. On passera un coup de fil à Paulo Breitner en fin d'after. Parce que ça y est, le Bayern regagne enfin. Ça a été un mois de septembre compliqué. Mais le Bayern s'est fâché ce soir en Bundesliga. Victoire 4-0 face au Bayern Leverkusen. Puisqu'on est sur l'étranger, quelques résultats à vous donner. Au Portugal, important pour l'OM, le Sporting a battu Gil Vicente 3-1 ce soir. Sporting adversaire de l'OM mardi à 18h45 en Ligue des Champions. Donc deux équipes qui auront gagné, qui vont s'affronter. Et puis Porto mène 2-0 contre Braga après 36 minutes de jeu. En Espagne, il reste quelques secondes, l'Athletic Bilbao mène 4-0 contre Almeria. Et puis voilà, si on a le temps, j'ai quelques infos à vous donner. Une info importante, on va prendre le temps de la donner. Elle concerne la vente de l'OL ce soir, un communiqué d'OL Group. En gros, qui explique qu'il ne faut pas s'inquiéter, qu'il y aura un petit retard. Vous savez que l'OL devait être vendu aujourd'hui, le 30 septembre au plus tard. Ce ne sera pas le cas. La date est repoussée au 21 octobre.
Il a trouvé les sous ?
A priori, oui, on nous parle de... Je te lirai le communiqué tout à l'heure.
Ça servait à quelque chose de faire des interviews tout feu, tout flamme, et puis pour arriver et dire que finalement, il y a un peu de retard parce qu'il n'y a pas les fonds qui suivent. C'est quand même un peu dommage, non ?
Dommage ou inquiétant d'ailleurs pour toi?
Un peu ridicule.
Bon. Dommage, je vous lis ça et on en parle tout à l'heure. D'ailleurs, supporter oui, lyonnais, si vous voulez réagir à ces trois semaines supplémentaires pour la vente de votre club, pareil, hein, n'hésitez pas sur tous ces sujets. Le 32-16 est là, les gars. Adrien vous attend au standard. Venez débattre avec l'after. Vous commentez votre émission sur le direct studio, sur les applis RMC, RMC Sport. Vous cliquez sur la petite radio à droite, puis le direct studio. Nous vous lisons ici en direct. Vous pouvez commenter aussi si vous préférez sur Twitter. Le hashtag RMC Live. On commence tout de suite, comme tous les soirs. Match par le plus important.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les trois points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Kevin, Jonathan, vos trois points ce soir. Jonathan.
Le premier point, c'est que c'est une victoire sereine de l'OM, même si la première demi-heure, on va dire, a été marquée par beaucoup d'erreurs et d'injustesses techniques. Mais c'est une victoire qui est précieuse et une nouvelle clean sheet pour l'OM, donc c'est du tout positif avant les échéances importantes en Ligue des Champions. Le deuxième point, je vais faire court, Samuel Gigot, taille patron. On aura l'occasion de développer ça dans l'émission. Et mon troisième point, je fais trois points intégralement OM. Quel plaisir de revoir enfin Cheikh Amadou Bamadjang sur une pelouse de Ligue 1. Je pense que ça a été un des couacs de la gestion de Longoria, mais de revoir ce joueur-là qui certes est limité, mais qui a des qualités sur une pelouse de Ligue 1 dans cet effectif de l'OM, ça a fait plaisir, je pense, à tous les supporters marseillais.
Kevin, tes trois points ce soir.
Bah écoute, le premier point, ce sera que l'OM ce soir, c'était tranquille. Franchement, un match maîtrisé, même si c'est vrai que la première mi-temps n'a pas été exceptionnelle. Mais honnêtement, ouais, ils ont été quand même assez tranquilles. Ils ont réussi à maîtriser les temps forts, les temps faibles. En deux, bah, c'est Angers qui est quand même inquiétant sur ce match. Après avoir plutôt bien débuté avec un bloc haut, derrière, ils ont complètement craqué. Et en trois, bah, c'est quand tu vois cette équipe de l'OM, bah, je suis désolé, mais moi j'en veux à ceux qui ont fait que l'OM va jouer à huis clos contre le Sporting, ah ouais. Parce que franchement c'est une catastrophe pour le football.
Aux Allemands.
J'en veux à tout le monde.
Parce que et moi j'étais juste à côté.
Il n'y avait pas que les Allemands. Mais honnêtement c'est triste.
J'étais juste à côté. Je fais une aparté parce que j'ai pas eu le temps de commenter, mais j'étais juste à côté. Je veux bien, il y a eu des torts des deux côtés, mais les bombes agricoles, je sais que toi Kev t'es contre les fumigènes.
Tout engin pyrotechnique.
Et tu sais quoi, les fumigènes, je suis pas d'accord avec toi, mais je peux te suivre parce que ta logique elle est cohérente. Mais alors étendons-la aux bombes agricoles que les Allemands ont jetées sur le virage nord.
C'est sûr.
Alors qu'après il y a des débordements et que le virage nord réponde, c'est pas acceptable ce que tu veux, mais c'est au moins entre guillemets compréhensible. Bon, après, donc merci aux Allemands.
Il y a des bombes agricoles dans tous les stades de Ligue 1, enfin dans beaucoup de stades de Ligue 1. Des fois on les entend aussi, les gros pétards. Je sais pas.
Des
si
gros
c'était...
pétards, mais des bombes agricoles, Kev. Ouais. Pas ouais. Pareil.
Et en tout cas, bon, ça, Jonathan, c'est ton ressenti. L'UEFA.
J'étais à côté. Hein.
Oh, non, mais l'UEFA a enquêté et a sanctionné l'OM
et Francfort aussi. D'ailleurs.
Francfort aussi. L'OM de ce huis clos pour le match contre Francfort.
Je pense que Marseille va se faire sortir en Champions. Faut pas être, tu vois, moins d'un miracle. Bah, sur les trois matchs à domicile, il y aurait eu juste un match à guichet fermé avec le stade plein. C'est quand même.
Ouais, Francfort, la sanction, c'était une amende de 15 000 euros, fermeture partielle du stade de moins 1000 places avec sursis et une interdiction de vendre des billets à ses supporters pour le prochain match à l'extérieur. Donc les deux avaient pris, probablement que la faute était des deux côtés. Bref. Ouais. Passons sur le match du soir. L'OM est ce soir leader de Ligue 1. En attendant le Paris Saint-Germain qui joue ce samedi soir contre Nice à 21h. Ce sera en direct sur RMC. Vous rejoignez tous les deux sur votre premier point. Et je vais prendre Andy dans un instant au 32-16. Mais sur cette victoire tranquille, sereine. Beaucoup plus après le premier but d'ailleurs. Il y a eu un début de match quand même vraiment équilibré.
Le début de match n'a pas été forcément à la hauteur, notamment techniquement parlant. Il y a deux joueurs qui sont à pointer du doigt ce soir. Alors il y en a un... On a eu du mal à comprendre pourquoi il ne jouait pas depuis le début de la saison. Mais clairement, Dimitri Payet n'est pas au niveau qui doit être le sien, même par rapport à son âge. Il y a deux, trois actions qui sont assez frappantes, où, notamment en première mi-temps, il y a un super ballon de Guendouzi qui le décale sur le côté gauche de la surface de réparation angevine. C'est la 22 ou 23e minute. Je l'ai noté parce que ça m'a marqué. Et c'est typiquement le genre d'espace où Payet excelle. Tu vois, il est dans le demi-espace, il est en 1 contre 1, il foire son dribble, il fait une passe pathétique. Tu sens qu'il a un demi-temps de retard sur chaque action, tu sens qu'il est pas en forme. Donc Payet, on se demandait pourquoi il ne jouait pas, je pense que petit à petit on a les réponses. Et le deuxième joueur qui a été inquiétant et qui est à mon sens responsable de ces 30 premières mauvaises minutes de Marseille, c'est un joueur qui est arrivé pour beaucoup d'argent et qui n'a pour l'instant pas fait un gros match à Marseille, c'est Jordan Verdun. Alors, on a un peu des infos à droite à gauche sur son état de forme, son état d'esprit, peu importe, donc c'est pas recoupé. Mais très clairement, moi, Vertu m'inquiète. Et après, effectivement, après le premier but, bah, ça aide, parce qu'Angers en face, c'est pas le Brésil.
Kevin.
Bah, en parlant de Brésil, quand t'as parlé de Vertu, je croyais que t'allais parler de Tierson. Pour la première demi-heure.
Aussi. Mais ça, je pense que ça mérite un truc à part, parce qu'il y a le but. Vas-y, je te laisse.
Mais je suis d'accord, hein, sur Dimitri Payet. C'est vrai que, alors, Le problème avec Dimitri Payet, c'est que c'est ce genre de joueur qui a besoin de jouer pour être en forme. Mais le souci, c'est que quand il joue, il est pas bon pour l'instant.
Et ça marche jusqu'à quel âge, ça?
Oui, non, mais bah surtout à cet âge-là, il a besoin de jouer. Maintenant, il a besoin de jouer peut-être aussi les matchs de préparation, les premiers matchs de championnat. Là, maintenant, il a un petit retard par rapport à d'autres joueurs qui, dans les autres équipes ou même dans son équipe, sont eux à 100% parce qu'ils ont enchaîné les matchs. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu prends le retard et après, c'est difficile.
Alors, j'ai une question pour toi.
De monter.
T'as joué jusqu'à quel âge?
Non, moi, j'ai. Ah, mais après, j'ai pas le.
Non, non, mais on va transposer. T'as joué jusqu'à quel âge?
Moi, je joue à 36 ans. Mais
jusqu'à 36 ans, tu faisais quand même attention à ce que tu mangeais, à ton régime, à pas être en surpoids.
Je ne sais pas si lui fait attention ou pas.
Il a bien changé.
Je ne l'ai pas jugé.
Je l'ai vu manger ce soir, Kevin.
Non, mais même là, il est quand même fit.
Après, attention, il y a une morphologie. Et moi, j'ai cette chance-là. Bref, mais je veux dire, c'est vrai que je suis d'accord. Hein, moi, j'ai réclamé Dimitri Payet, mais honnêtement, sur ce qu'il montre. Et j'ai envie d'avoir l'avis des supporters marseillais parce que je vais parler de quelque chose à Jonathan à la mi-temps. Je vais revenir sur ce que nous a dit Romain.
Ok.
On va voir ce que nous dit Andy.
C'est Andy qui est avec nous au 32-16, supporter de l'OM. Salut Andy.
Salut Andy.
Salut Andy.
Salut Andy. Kevin.
Bienvenue
salut
dans l'after, Andy.
Ouais, merci. Merci. Je suis ravi de passer avec Joe aussi.
Allez, avec plaisir.
L'écoute et d'avoir un compatriote marseillais, entre guillemets. Ouais, ça fait plaisir.
Allez, ça va.
Non, mais ouais, sur le match, vous êtes chiants, les gars, parce que je vous écoute et. Finalement, vous avez un peu tout dit.
Bon, ça marche, Andy. Bah, écoute, passe une bonne soirée.
Andy, tu nous dis juste oui, tu te casses, hein.
Non, mais c'est vrai. Musicale, là, je regardais le match avec mon beau-père et putain, c'est vrai. Tu regardes le score, tu vois 3-0. Mais en fait, quand tu regardes le match, c'est pas du tout révélateur du score. Il y a beaucoup d'opportunités pour les Angevins. Heureusement, ils sont faiblards parce qu'en face, tu mets une équipe avec un petit peu plus de qualité. Le score n'est pas de 3-0 au final, d'après moi. Et il y a beaucoup, beaucoup trop d'opportunités. Et je suis d'accord aussi sur le cas Veretout. Je trouve il y a des pertes de balles dans notre camp. Il y a des pertes de balles au milieu de terrain qui sont quand même, pour un joueur censé de ce niveau, je trouve que c'est pas normal.
On se pose la question ou pas, Andy?
Comment?
On se pose la question, surtout quand on voit le match
il a fait un ou deux bons matchs, quand même.
Mais pas des gros matchs à la hauteur du prix, à la hauteur du salaire.
Voilà,
mais posons-nous la question. Ouais. Guendouzi joue plus bas là ce soir. Il est bon.
Ouais.
C'est son poste.
Ouais, c'est son poste, ça c'est sûr.
Tu mets Guendouzi, Rongier.
Devant, tu mets le trio favori de Tudor qui est Under, Alexis et Aminarit. Pour moi, il n'y a plus de questions à se poser. Et Vertoux, pour l'instant, il n'a pas prouvé qu'il mérite d'être titulaire. À 11 millions d'euros, plus avec un salaire de 300 ou 400 000 nets par mois, je suis désolé, on attend plus.
Non, mais alors, à la mi-temps, messieurs, on avait Romain qui nous disait « Ouais, mais moi, bon, l'OM menait déjà. Ouais, mais moi, le 3-5-2, la tactique de Tudor, j'aime pas, c'est trop défensif. » Et à un moment, il vient, il finit par nous dire « Avec Sampaoli, tu vois, il y a toujours ce relance. »
Pourquoi il a dit que c'était trop défensif?
Bah, je sais pas, en tout cas, selon lui, c'était défensif.
Il joue avec deux ailiers, deux 10 et un 9.
Oui,
parce que c'est clair, hein, c'est deux ailiers, c'est pas de la deux pistons.
Alors, c'est juste pour faire une petite comparaison, parce que j'ai quand même souvent l'impression que les supporters marseillais qui étaient à fond derrière Sampaoli ont vraiment du mal à accepter Tudor, malgré le fait qu'ils soient premiers. Quand même, c'est incroyable. Ils sont premiers, on gagne 3-0 ce soir.
Et tu gagnes.
Non, mais il y a débat, ok. Mais aujourd'hui. Ok, c'est pas un match flamboyant. Ok, tu as raison. On regardait les stats avec Jonathan à la mi-temps. Il y a 14 tirs pour Angers, 5 cadrés. Donc c'est quand même beaucoup. Mais l'OM gagne 3-0. Tu vois, ils sont pas flamboyants à Auxerre, mais ils gagnent 2-0. Donc il y a un moment, t'es premier au classement.
Et puis tu joues. Tu joues avec 5 attaquants. Tu joues pas si mal
non plus quand t'as le ballon. Tu te procures des occasions. Tu te projettes vers l'avant. Parce que l'OM, c'est 15 tirs quand même, hein, c'est beaucoup.
Et
c'est
juste cadré. Andy, je te dis juste, j'ajuste un truc à ce que dit Kevin. Ouais. C'est que t'es un match avant une semaine européenne. En général, ce genre de match, historiquement à Marseille, t'avais un peu du mal à les négocier.
Et après la trêve aussi.
Ouais, mais non, mais c'est un match avant une semaine européenne, mais qui vient après une trêve internationale. Donc, les gars étaient quand même non censés être en forme, plutôt reposés, avoir travaillé durant la semaine. Les internationaux qu'on a dans l'équipe.
Et il y en a quelques-uns, quand même.
Mis à part Klaus, qui a un petit peu joué avec l'équipe de France.
Ils étaient pas là, tu vois. Guendouzi était pas là non plus. Alexis Sanchez, bon, il a pas joué ce soir, mais il a joué avec le Chili deux matchs.
Mbemba était blessé avant la trêve.
Ouais. Eric Bailly, qui est sur le banc.
En tout cas, pour les mauvaises notes, tu vois, pour les mauvaises notes, je mettrais aussi Gerson, tu vois, Gerson.
Ah, mais ça, on allait garder un chapitre spécial sur Gerson.
Et les gars, Andy, j'aimerais ton avis aussi, parce que il y a beaucoup d'appels, donc on va, n'hésitez pas, à 32-16, on va essayer de prendre un maximum de supporters marseillais. J'ai un message sur le direct studio de Jérém qui écrit: j'espère que Jo va reconnaître que Balerdi fait un bon match ce soir.
Oui, alors, non, il a été bon joueur.
Ouais, Balerdi a fait son match ce soir, tout comme contre Rennes. Mais moi, je persiste à penser une chose, c'est que Balerdi ne vaut pas le prix qu'il a été payé. Maintenant, ça, on le met de côté. Mais que la seule chance que Balerdi, tu puisses t'en servir, c'est de jouer libéraux dans cette défense à trois, avec deux mecs à côté qui sont très forts, Mbemba et Gigot, qui rattrapent toutes ces conneries.
Bah alors ce soir, il y a même pas ça, il y a pas de conneries. Moi je soulevais un truc.
Ah bon ? Attends. J'ai mes petites notes du match.
Ah bah vas-y, sors tes notes. Mais est-ce que surtout Balerdi, il est pas fait pour jouer loin du Vélodrome, les gars.
36e minute, 64e minute par exemple, il remporte un duel et un très beau duel face à Sofiane Boufal, relance plein axe, occasion Angevine.
OK, je
note. C'est ça, il y a quand même toujours un petit truc, tu vois, où c'est pas parfait. Et le problème c'est que Balerdi, le problème c'est que Balerdi là, il fait ses matchs contre Rennes qui est moyen en ce moment, contre Angers qui est une faible équipe de Ligue 1. Et puis en Ligue champion, moi honnêtement je vais pas me réénerver comme quand j'ai fait après le match contre Francfort, mais vu du stade il est encore plus nul qu'à la télé, c'est dramatique.
Mais c'est pas un joueur fait pour jouer loin du Vélodrome, les gars, vous en
c'est un joueur
pas.
Fait pour jouer dans une défense à 3 avec Gigot et Mbemba qui rattrape ses cagades.
C'est juste un joueur.
Ok, un joueur t'as pas une petite boutade là, Rich ou quelque chose,
un truc, ouais, si tu veux. J'ai Jean-François Balerdi pour Balerdi, si tu veux.
Jean-François Balerdi, c'est pas mal.
Non, j'avais dit un jour que s'il s'appelait Jean-François Balerdi et qui venait de Marseille Consola, il ne l'aurait jamais signé à l'OM.
Tu sais ce qui fait mal, c'est qu'en fait, il a été pris dans l'effectif au moment où il y avait Lucas Perrin, et je lui vois rien de plus, je ne revois rien de mieux que Lucas Perrin.
Andy, merci beaucoup d'être passé dans l'after ce soir.
Salut Andy.
Bonne soirée.
Salut Joe.
Salut Andy.
À bientôt. Les gars, au 32-16, un auditeur qui fait son retour pour la première fois depuis cet été. Alors, je veux pas entendre, vous prenez toujours les mêmes à RMC ou quoi, on prend ceux qui nous appellent. Donc si jamais vous trouvez qu'on voit trop d'auditeurs, n'hésitez pas à appeler. Mais les gars, ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Choukri à l'antenne. Salut Choukri !
Salut la Choukri.
Salut Choukri.
Comment ça va Choukri ? Tu dormais ou quoi depuis le début de saison ? Bah très bien.
Ça va quoi Choukri ? On prend pas tout le temps, on prend juste les meilleurs. À l'after, on prend les meilleurs, les gars.
On prend tout le monde. On prend tous ceux qui ont des avis.
Exactement, des avis tranchés comme le mien.
Et Choukri.
On joue le titre.
Ah bon.
On joue le titre cette année. Je vous le dis, rappelez-vous ce que je vous ai dit en début de saison. On joue le titre.
Et pourquoi le titre carrément comme ça?
Mais je suis pas loin de penser comme lui, hein, pour l'instant.
Alors,
la preuve du contraire.
Je vais vous développer.
Développe-nous.
On joue le titre déjà parce que le championnat de Ligue 1, il est faible.
Il y a quand même une équipe devant qui est assez forte, non?
Oui, le Paris Saint-Germain.
Ah oui, mais c'est elle va jouer le titre aussi.
Oui, mais on va jouer le titre avec le Paris Saint-Germain. On joue le titre cette année. Moi, je vous le dis, cette année, on joue le titre. Et là, ce que j'ai vu encore ce soir, c'est que la Ligue 1, pour moi, elle est faible. Cette année, je sais pas vous, mais moi, cette année, je trouve que c'est faible. C'est faible. Ce que j'ai vu ce soir, c'est un match, franchement, niveau Ligue 2. Je pense qu'en Ligue 2, des fois, je regarde des matchs de Ligue 2, je me régale un peu plus. Alors après, sur l'OM, on a pris les 3 points, c'était l'essentiel. Comme disait l'autre, l'essentiel, c'est les 3 points. Donc, les 3 points, ce soir, ils ont été actés, c'est ce que je voulais. Et le match en lui-même, je suis désolé, je me suis fait chier. Bon, personnellement, je me suis fait chier. J'ai vu une dope de match.
Choukri, tu sais ce qui peut aller abonder dans ton sens, c'est qu'alors certes, hein, il y a encore les matchs qui restent à jouer de cette journée-là, mais quand tu regardes que bon, Lyon va aller à Lens, c'est un déplacement qui est quand même un brin compliqué. Monaco va recevoir Nantes, c'est pas forcément une victoire courue d'avance. Et que tu regardes que Marseille, avant ces matchs-là, a quand même 9 points d'avance, par exemple, sur Monaco. Et on a 10 sur Lyon déjà. Ouais, je peux peut-être te rejoindre là-dessus.
Mais c'est ça qui fait que cette année, on va jouer le titre. Cette année, on va jouer le titre avec le Paris Saint-Germain. Parce que pour moi, je trouve que c'est faible. Le championnat, il est faible.
Jouer le titre, honnêtement, quand tu vois quand même les joueurs qui sont dans cette équipe de l'Olympique de Marseille, ça me paraît compliqué. Je me dis pourquoi pas, hein, je
pense pas qu'on a un effectif assez profond cette année.
Oui, mais l'effectif est profond, mais aujourd'hui alors je dirais pas que la Ligue 1 elle est faible, mais en tout cas aujourd'hui l'Olympique de Marseille a joué quand même avec des joueurs qui pour moi ne sont pas au niveau de, d'une équipe qui doit jouer le titre. Quand tu as un Cabouret qui est volontaire, hein, qui est un remplaçant. Oui, mais aujourd'hui il est remplaçant, mais il y a pas beaucoup de choix. Donc une blessure de deux matchs, trois matchs, et il va jouer titulaire, tu vois.
Tu l'as trouvé mauvais?
Non, mais je veux dire quand même, quand tu veux jouer le titre, il va falloir sur 38 journées être au top.
Allez, ok.
Et sur 35 journées.
Je te l'accorde. Et pour moi, c'est le seul poste qui est un peu faible.
Oui, si c'est pas doublé. Ouais, mais on a quand même dit, bon, derrière, t'as du Balerdi qui joue quand même beaucoup de matchs, même si, ok, il y a
des blessures. Il va revenir.
Suarez, il marque ce soir, mais c'est quand même limité quand même pour un attaquant d'une équipe qui doit jouer.
Alexis, le titulaire.
Oui, non, mais on est d'accord. Oui, mais c'est des joueurs qui vont jouer avec l'enchaînement des matchs. Donc, il y a Payet qui joue en marchand.
Moi, je voudrais revenir sur.
Il y a beaucoup de joueurs, mais
attends, laisse-moi
répondre. Non, mais justement.
Quel enchaînement de matchs? Marseille est déjà éliminé de la Ligue des Champions et je pense qu'il va très difficilement terminer troisième de
Robert. Non.
Il reste quatre matchs à faire.
Tu vas pas nous dire que vous allez aussi jouer la Ligue des Champions.
Choukri.
On n'est pas éliminé de la Ligue des Champions. Qui c'est qui a dit ça là? Vous plaisantez ou quoi? Vous pensez vraiment qu'on est éliminé de la Ligue des Champions?
Vu la structure du groupe, ça va être compliqué, je vous prie.
Mais non, ça va le faire. Ça va le faire.
N'oubliez pas que tu joues sans public au Vélodrome quand même. Hein.
Mais c'est bien justement, ça va peut-être être un avantage. Il y aura peut-être un peu moins de pression.
Choukri, je te le dis, il faut prendre 4 points sur 6 face au Sporting et c'est loin d'être fait.
C'est réalisable. Ah ouais. On peut le faire.
Et Choukri, les gars,
impossible, non, mais compliqué.
Et Jonathan et Kevin, je voudrais votre avis sur l'un des événements ce soir. Parce que l'OM gagne 3-0, Klose est bon, mais il y a un joueur qui fait son retour, première fois de la saison. C'était dans tes trois points.
Amadou Bamba Dieng
qui revient.
Le meilleur buteur de la Coupe du Monde.
Il jouera pas la Ligue des Champions, mais Choukri,
tu racontes.
T'es content,
le futur meilleur buteur de la Coupe du Monde, les amis.
Laisse-le à l'OM pour l'instant. T'es content de voir Bamba Dieng rejouer cette année, Choukri?
Mais carrément, Bamba. Franchement, si j'ai envie de dire quelques mots sur Bamba, si vous me laissez le temps.
Allez.
Bamba, c'est vraiment pour moi le symbole du foot anti-business. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un mec qui s'est accroché. Il aurait pu partir pour de l'argent. Il a dit je reste à Marseille. Il a dit j'ai envie de m'imposer dans cette équipe. Et rien que pour ça, aujourd'hui, c'est des valeurs que dans le football, aujourd'hui, ça s'est oublié. Et ce mec-là, franchement, au-delà de sa situation qui était compliquée ces derniers mois, je trouve que c'est tout à son mérite d'avoir voulu rester à l'OM et de s'imposer à l'OM parce qu'il en a déjà, d'un, les capacités, et de deux, c'est vraiment un joueur qui aime le club et qui aime l'Olympique de Marseille. Et rien que pour ça, moi, je suis content de le voir ce soir et je pense que tout au long de la saison, et même peut-être en Ligue des Champions, on va avoir besoin de Bamba Dieng. Alors, c'est peut-être un joueur qui va faire la différence.
Il la fera pas en Ligue des Champions. Il la fera pas en Ligue des Champions.
Ah, il n'est pas qualifié.
Mais ouais, il n'est pas qualifié. Choukri, il y a beaucoup de supporters marseillais qui nous appellent au 32-16. Bon. Merci d'être passé ce soir.
Salut Choukri.
Salut Choukri.
Et à bientôt, Choukri.
Merci. Ciao. Bon, Marseille joue le titre. Hein.
Voilà.
Marseille joue le titre.
Allez. Salut Choukri. Bye bye. Armand est là au 32-16, supporter de l'OM. Salut Armand.
Salut l'équipe, ça va ou quoi?
Salut Armand.
Ça va et toi? Est-ce que l'OM joue le titre, comme le dit Choukri?
Bah, je vais vous dire la vérité, ouais, pour moi, c'est sûr et certain.
Même face au Paris Saint-Germain?
Bah, après, on exclut Paris, hein, comme dans toutes les villes.
Tu joues le titre de Jean-Michel Aulas? Tu joues le titre de Jean-Michel Aulas, Armand?
Non, mais j'ai dit jouer le titre. J'ai dit, comme tout le monde, jouer le titre, ça veut dire ils sont deuxièmes.
Non, je vais te dire, Marseille, si tu veux faire une belle saison, c'est que tu fais la même chose que l'an dernier, à savoir finir second, mais sans faire l'expression Jérôme Rotten, sans faire caca culotte contre jusqu'à la dernière journée. Tu fais second en étant serein.
Justement, ça sent moins le caca culotte que l'année dernière quand même.
Ouais. Alors moi, j'ai une question. Dis-moi. Toi qui es supporter marseillais, qu'est-ce que tu penses du début de saison et du match de notre ami Gerson?
Alors moi, j'appelais pas pour Gerson, mais je vais quand même te répondre. Pour moi, Gerson, c'est mitigé, mais bon, après, il a le niveau même plus, mais bon, il nous a prouvé en Ligue des Champions les faiblesses. Et moi, honnêtement, quand je regarde Marseille, même si je pense à l'année dernière, hein, son très très bonne deuxième partie de saison, moi, c'est pas Gerson que je vois pour Marseille. Je le vois comme un Neymar de Marseille. Je sais pas comment.
Ouais, je suis d'accord. J'aime pas son état d'esprit sur les derniers mois. J'aime pas ce qu'il dégage quand il sort contre Auxerre alors que il y a un match important de Ligue des Champions. Voilà.
Les gars, contre Francfort.
Ouais.
Il sort, ton équipe actions, est menée, le mec, il met 17 secondes pour sortir. Ouais. Il se fout de la gueule du monde.
Excuse-moi, c'est trop, c'est son
non, il fait trop. Pour moi, il fait un peu trop la star. Pour moi, je pense qu'il se croit meilleur que ce qu'il n'est, et qu'il a un peu le melon pour le coup. C'est un joueur qui a des qualités, mais c'est un joueur qui doit rester lui-même. Reste toi-même, mon grand, et fais ce que tu sais faire.
Buts, il le sauve, on va dire. à chaque fois.
Même si aujourd'hui son but est beau, hein, y a pas trop.
Mais ça, le problème, ouais, c'est que ses qualités techniques font que ce genre d'action, des beaux buts, des belles actions, par éclat, il est capable de les faire, mais collectivement, il n'apporte rien par rapport à sa seconde partie de saison de l'année dernière où certes, c'est devenu le rouage essentiel de l'effectif au point que moi, je pensais que c'était lui le successeur annoncé de Dimitri Payet pour être le maître à jouer de Marseille. Mais là, collectivement, il n'apporte rien. Son comportement, il est minable. Ses attitudes à chaque fois qu'il sort, c'est incroyable. Et personnellement, de mon côté, il va en falloir beaucoup pour que sa sortie minable contre Francfort, à savoir prendre 17 secondes pour sortir du terrain, soit oubliée.
Pour finir, Armand, je te reprends dans un instant, mais Igor Tudor arrive en conférence de presse en direct au stade Raymond Coppa d'Angers. On va ouvrir le micro et écouter une ou deux réponses. Et la traduction derrière, en direct sur RMC, Igor Tudor, le coach de l'OM.
C'est une grande partie pour il Marseille. Qu'est-ce qui l'a convaincu le plus cette sera?
Era un primo tempo combattivo contre une squadra che.
Il n'a pas un qui parle italien.
Casa, vuole, sì, è motivata contre un grande avversario, contre la squadra
derrière. Première mi-temps, combattif contre une équipe qui jouait à domicile et qui était motivée.
Poi, secondo tempo, praticamente ha giocato solo la nostra squadra perché fisicamente loro sono.
Deuxième mi-temps, genoux qui ont joué, parce que physiquement.
On a passato tanto e noi invece siamo continuati e alla fine. Abbiamo vinto meritatamente. Mi è piaciuto lo spirito, la voglia di fare, di vincere,
la volonté de gagner.
Sacrificio, corsa.
T'embête pas.
Sacrifié.
On va prendre la trappe derrière.
Non è mai facile.
C'est pour le rythme, tu vois.
Gara dopo la sosta.
Mais oui, non, mais c'est ça. Sempre
problematiche. Allora avevo un po' di preoccupazione per questa cosa. Invece è andata bene.
On va écouter la traduction et puis la question d'après.
Pas très enthousiaste quand il répond quand même.
Toujours.
Attends. Est-ce qu'on peut entendre la trappe?
Non. Dans la première mi-temps, Angers qui joue à la maison avait un esprit combatif, ils ont lutté. Puis pendant la deuxième mi-temps, eh bien, c'est l'OM qui a joué principalement. Ils ont baissé leur intensité physique, nous on a continué. J'ai beaucoup aimé notre esprit, notre envie de gagner, la course qu'on a mis, cet esprit combatif qu'on avait. Et c'est toujours positif de voir ce genre de résultat après la trêve. Car c'est toujours un peu dangereux la trêve, mais là on a eu des très bons résultats.
On va écouter juste la deuxième question.
Il y a une belle satisfaction ce soir, c'est Jonathan Klaus qui
Jonathan
a
été Klaus.
Beaucoup de positif. Qu'est-ce que vous avez pensé sur le match?
La réponse sur Jonathan Klaus d'Igor Tudor. On écoute son traducteur dans la foulée et on vous reprend supporter à Marseille au 32-16.
Che è un giocatore pazzesco, come lo so già dall'inizio, da primo allenamento che l'ho visto. Poi un ragazzo per bene, veramente un piacere allenarlo, ecco.
Je pense que ça y est, je parle italien.
C'est un club, c'est incroyable. Mais je le savais dès le premier entraînement qu'il était. En plus, c'est quelqu'un qu'on entraîne très bien et c'est vraiment un plaisir d'être son entraîneur.
Voilà la première réaction d'Igor Tudor en direct du stade Raymond Coppa d'Angers, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Bah, tiens.
Le traducteur, il saoule pas quand même. Il est
concis. Il a compris qu'on finissait à minuit.
Klaus, les gars, vous, très fort. Hein.
Bah, justement, parce que Armand nous a dit tout à l'heure qu'il l'appelait pas. Je crois qu'il appelle pour Klaus. C'est ça, Armand, au 32-16?
Ouais, tout à fait. En fait, j'ai appelé pour Klaus et Veretout, moi.
Ah, okay.
Allez, dis-nous.
Vas-y.
Alors, je vous dirais juste en deux mots. Je défends pas leur cause à l'année, toute l'année. En fait, c'est juste. Je me suis rendu compte sur ce match qu'en fait, ces deux mecs-là, ils méritent largement d'être là à la Coupe du Monde. Bon, Klaus, voilà, j'ai pas besoin, vous avez tout dit. Oui, mais Veretout, juste pour finir, on connaît tous ce style de joueurs, que ce soit en amateur, en professionnel, des joueurs de l'ombre. On voit que leur raté, comme j'ai écouté l'auditeur tout à l'heure. En fait, j'étais pas d'accord. Parce que si on regarde bien, en tant que vrai, vrai footballeur, bon, après, à chacun notre niveau, il fait tellement d'efforts. Sa carrière, elle est pas folle, mais elle est très correcte, honnêtement. C'est un joueur de l'ombre qui fait briller Marseille.
Non mais
désolé.
Sa carrière, tu peux
pour
pas
moi,
dire.
Pour moi, c'est sûr et certain.
Sa carrière, tu peux pas
regarde
dire.
Regarde le match de ce soir, regardez pas ses ratés, ce mec-là.
Non mais.
Il a joué la plupart du temps 90 minutes.
Et il faut aller dans ce sens.
Non, mais ça fait partie du jeu de. On peut pas occulter ses ratés quand
défendez
même.
Défendez-le-moi.
Non, mais bien sûr.
On peut pas occulter ses ratés. Mais
dans un collectif, il est important.
Juste, moi je vais dans ton sens hein. Et déjà tu dis que sa carrière elle est très correcte. Non, sa carrière est très belle parce qu'avoir joué quand même aussi longtemps à la Roma notamment, c'est quand même pas
à
mal.
À la FIO aussi hein.
Oui, et à la Fiorentina, en Italie quoi. C'est beau. Après oui, il vient en fin de carrière, il a plus ses jambes de 20 ans.
Carrière.
enfin, on va dire dans la dernière partie de sa carrière, mais il a quand même passé les 30 ans.
Non.
Pas
non.
sûr,
non. Non. Ouais, non, Vertu, il a 29 ans.
Hein. Ouais, 29 ans. Donc, il arrive quand même dans la dernière partie, on va dire, c'est son dernier gros contrat. Donc, forcément, c'est plus le mec qui est plein de fraîcheur. Il vient aussi pour apporter son expérience. Maintenant, oui, j'ai trouvé ça un peu cher. Honnêtement, j'ai trouvé ça un peu cher. Par contre, moi, je le trouve pas mauvais.
Tu trouves ça un peu cher par rapport au rendement qu'il a en Italie?
Non, je trouve ça un peu cher par rapport à l'âge, tu vois.
Parce que moi, je trouve pas ça cher par rapport au rendement que je l'ai vu avant en Italie. Tu sais que je suis avec beaucoup d'attention la
saison. Il était remplaçant quand même.
Non, les 6 derniers mois. Parce qu'il y a un truc qui s'est cassé avec Mourinho, mais il commence titulaire et puis il y a un truc, on sait pas, blessure mal soignée. Moi, j'ai eu des échos à droite à gauche sur la manière dont il s'est soigné et ça peut peut-être expliquer beaucoup de choses. En revanche, je veux bien vous écouter et je suis même d'accord avec vous en disant, oui, il fait un travail de l'ombre. Mais le problème, c'est que ce joueur-là, tu l'as pas fait venir pour faire un travail de l'ombre, tu l'as pas fait venir pour être Valentin Rongier. Tu l'as fait venir parce qu'il est capable de créer des choses, il est capable d'apporter offensivement, il est capable de t'apporter. Alors, certes, c'est pas lui qui les tire, de t'apporter sur coup de pied arrêté. Attention, hein, ses stats, elles sont très gonflées parce que c'est lui qui tirait les pénaltys. Okay. Mais il est capable de t'apporter beaucoup plus offensivement. Et pour l'instant, par rapport aux joueurs que je voyais à la Roma, et je pense que, je sais pas si c'était avec toi ou t'étais encore là, ou, non, ça devait être avec Ludo, on était prêts à signer des pétitions, à faire les tours d'emprunt l'étoile tout nu pour que Deschamps l'appelle en équipe de France avec Ludo Bragnac. Mais on est très, 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 très loin du niveau qui est le sien.
J'ai eu un message tout à l'heure sur le direct studio qui disait on comprend pourquoi l'AS Rome l'a laissé partir. Armand, merci beaucoup.
Salut Armand. Merci Nico. Ciao les gars.
Passe une bonne soirée. C'est qui Nico?
C'est Thibaut.
Les gars. Non, mais excusez-moi. Je vais vous préciser. Non, je me suis mélangé. Désolé.
Armand, tu veux qu'on appelle Nico Jamin, c'est ça, en direct ou pas?
Non.
Par contre, je suis déçu.
Nico, Villas, Jamin. Mais je veux juste vous dire, dites à Gilbert que c'est son troisième prénom à Veretout.
De quoi?
Gilbert? Eh oui.
Ouais. Ah. Non, j'ai vu ça, Gilbert, Jordan Marcel Gilbert.
Ben voilà, peut-être une bonne
nouvelle. Il a des prénoms.
Merci Armand.
Allez,
à bientôt dans l'after.
Les gars, je suis déçu que aucun auditeur n'ait appelé et que nous n'ayons pas, que vous n'ayez pas relevé. Match patron de Samuel Gigot.
Alors, on va en parler.
Foutu de sa tronche.
T'adores Samuel Gigot.
Dans un instant.
Mais
bon, alors, les gars, on va faire une pause.
Il est pas beau son match. Il est décisif sur le troisième but.
C'est ce que j'ai dit pendant le match.
Attendez.
J'ai dit pour moi, il me fait un peu penser à Nicolas Palois.
on va faire une pause. Tiens, il y a juste Eric qui attend au 32-16. Eric, salut. Bienvenue dans l'after.
Bonsoir.
Salut Eric. T'as appelé pour Gigot ou pas?
Non, pour Luis Suarez.
Bon, eh ben écoute, allez, qu'est-ce qu'on fait? On fait une petite pause, Eric. Tu nous attends 2 minutes, ça va?
Ouais,
et on parle de Luis Suarez et de Samuel Gigot pour Jonathan dans un instant. C'est l'after en direct jusqu'à minuit avec Kevin Diaz et Jonathan McCarty, avec vous au 32-16, supporters marseillais, supporters angevins, n'hésitez pas. Et puis je vois vos nombreux messages ce soir sur le direct studio ou sur Twitter. On est ensemble jusqu'à minuit, à tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
23h23, merci d'être là. On passe la soirée ensemble, soirée foot avec Kevin Diaz et Jonathan McCarty en direct jusqu'à minuit. On va parler tout à l'heure du Paris Saint-Germain et ce qu'on vous annonce ce soir sur RMC, c'est que Ekitike devrait être titulaire pour la première fois avec le PSG. Mbappé devrait être sur le banc. Et la question qu'on vous pose ce soir, c'est est-ce que Galtier fait une erreur de ne pas les associer? Mbappé avec un numéro 9. Voilà, on les verra pas ensemble, en tout cas au coup d'envoi a priori demain soir contre Nice. Mais d'ici là, c'est l'OM leader qui est passé devant le Paris Saint-Germain provisoirement avec un point d'avance. L'OM qui a battu Angers 3-0 ce soir. Et Eric qui est avec nous, supporter de l'OM au 32-16. Eric, re-bienvenue dans l'after.
Merci, bonsoir.
Bonjour.
Tu voulais parler de Luis Suarez ce soir, Eric?
Ouais, parce que le plus gros blâme par rapport à lui, c'est que tout le monde a décidé que c'était un mauvais joueur.
Qui
j'entends, j'écoute la radio, enfin j'écoute RMC et tout, mais pas tout le monde, non, mais
pas nous, hein.
Je suis pas là pour...
Non, mais en
général, en fait, parce que comme les gens, maintenant on est dans une génération, ils se prennent tous pour des entraîneurs et des recruteurs, ouais. Et ils profitent jamais de ce qui se passe sur le terrain. Et moi je trouve que Suarez, par rapport à ce qu'on lui demande, je trouve que c'est pas mal, là, il a 3 buts, il fait marquer Palois contre son camp, je ne sais pas si vous vous contre Nantes.
Oui.
Et en fait, mais c'est plus global, c'est en fait que les gens ne profitent plus, c'est-à-dire on a gagné Angers, ils arrivent à trouver des choses mal. C'est-à-dire, moi, on a gagné contre Angers, j'ai l'impression qu'on a gagné Manchester United, au soir, je vais bien dormir. Les mecs, ils profitent même plus. Et c'est donc, par rapport à Suarez, il est là le problème, parce que je ne sais pas à quoi ils s'attendent quand l'OM prend Suarez. Peut-être qu'ils s'attendent à des joueurs, à un joueur de classe internationale, mais sur quoi ils jugent que c'est un mauvais joueur, dans ses déplacements, dans son jeu en pivot, dans ce qu'il apporte, dans sa fraîcheur. Enfin, c'est intéressant, je ne sais pas, peut-être que je me trompe.
Et... Non, mais c'est
Kevin,
et Eric, je ne peux pas dire que tu te trompes, hein, moi. Je vois où tu veux en venir. Par contre, il y a quand même quelque chose, c'est que visuellement, il n'a pas l'air très adroit dans la surface de réparation. Pour
mais
un attaquant. Si j'exagère, Eric, il a un petit côté Brandao, tu vois. C'est-à-dire oui. Un joueur
non, mais
qui
est côté Bamba Dieng aussi, parce qu'on oublie, parce qu'on
on est d'accord. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Hein. Bamba Dieng, on en parle beaucoup. Bamba Dieng, c'est un joueur qui a encore une marge de progression certaine, mais qui doit justement beaucoup progresser avant d'être l'attaquant numéro 1 de l'OM.
Moi, écoute, sur Luis Suarez, je vais te dire, je l'avais vu 2-3 fois en Espagne et j'étais assez surpris du choix de Longoria d'aller chercher ce joueur-là pour ce prix-là. Parce que c'est pas un joueur qui me semblait être fiable. Mais je dois t'avouer que depuis qu'il est à Marseille, je suis très agréablement surpris. Donc c'est Flo Germain qui nous disait qu'au début de son mandat, Longoria avait 3 joueurs en tête. Il y avait Vlahovic et j'oublie l'autre. Il y avait Vlahovic, un autre et Luis Suarez.
Oui, ce qui a quand même rien à voir, hein.
Non mais quand Longoria disait Longoria avait repéré 3-9.
Oui.
3-9 au profil différent certes mais 3-9.
Je crois que l'autre était Haaland.
Non, tu vois, non mais c'est Flo Germain qui nous disait ça, il disait donc Longoria avait identifié 3 numéros 9 peu connus et c'est vrai que Vlahovic avant de performer à la FIO personne le connaissait. Donc oui. Il y avait Vlahovic et Luis Suarez et sur les matchs qu'il a fait à Marseille, je suis très agréablement surpris. Alors certes, c'est pas le plus grand technicien au monde, mais en termes d'activité, de volume de course et en termes de d'épuiser la défense arrière la défense adverse, bah écoute, ce soir, moi je trouve qu'il fait un bon match.
Ouais, alors le problème c'est que vous le savez comme ça se passe, il y en a beaucoup qui l'ont dans le nez, même au stade, je le vois. Hein,
mais qui
stade
et tout. Qui
non mais non, mais pas du tout, même au stade, dans la vraie vie, hein, au stade.
Le truc, tu sais pourquoi.
Non mais oui.
C'est parce que Bamba il jouait pas et que les gens ils veulent voir Bamba. C'est comme quand Payet il jouait pas.
Mais on gagne des matchs. Parfois j'entends les mecs qui vous appellent, ils sont jamais contents. Enfin, sur quoi? En fait, je me rappelle qu'on allait au stade à l'époque Courbis, on connaissait même, oui, il y avait le Vainqueur Shader, pardon. Mais on savait même pas la joie que c'était. C'est, en fait, les gens, c'est la joie, ils partent, ils sont mécontents. Il y a l'autre qui joue pas, ils sont mécontents. En fait, ils sont jamais heureux. On gagne, ils sont pas heureux. Et pareil pour Suarez, ils ont décidé qu'il était mauvais. Alors maintenant, peu importe ce qu'il fait, il est mauvais.
Bon, Eric.
Sur ce que tu disais, Eric, sur les Marseillais qui sont mécontents, j'en parlais tout à l'heure avec l'auditeur qu'on a eu à la mi-temps, sache qu'il y en a qui n'ont pas encore, entre guillemets, fait le deuil du départ de Sampaoli.
Ouais, mais c'est la nouvelle génération, ça. Alors, je vous dis, moi, je me rappelle qu'à l'époque de Gala, je n'aurais pas de courbis, parce que j'ai 35 ans, c'est plus que je connais au stade quand j'allais au tirage.
Très bel âge.
Mais on ne savait même pas, parfois, j'en rajoute, on ne savait pas qui c'était l'arrière droit. On venait pour l'OM, peu importe qui jouait, c'est ça,
toute la
génération. Allez, ils sont tous des entraîneurs, des scouts, mais profitez. Vous êtes supporter ou vous êtes.
Patrick Blondeau aussi.
Et oui, mais Patrick Blondeau.
Et on savait que c'était l'arrière droit. Arrête un peu avec moi.
Non, mais bien sûr.
On savait.
Voilà,
c'est Patrick Blondeau quand même.
On savait qu'il était l'arrière gauche surtout.
Non, mais bon, Patrick Blondeau, il est adoré.
Sous Roland
mais maintenant, si Patrick Blondeau jouerait maintenant à l'OM, il se ferait déchirer.
Il jouerait pas.
Voilà.
Eric,
ouais.
T'es un homme heureux, toi.
Mais très heureux. Mais peu importe.
T'es premier en plus.
Comment?
En plus, t'es premier.
T'es premier ce soir, provisoirement.
Non, mais moi, peu importe, je vous dis la vérité, je m'en fous. Moi, je me l'en dis juste, on est entre amis, on est Marseillais, on est content. Après, et on va en perdre. On sait qu'on est, que l'OM maintenant. On perd beaucoup de matchs, mais quand j'entends que les mecs.
Pas beaucoup depuis le début de saison, hein.
Oui, mais pour des présidents, pour éducateurs, qui sont ces gens? Je sais pas.
Eric, merci en tout cas, le message est passé.
Allez, merci à vous.
Passe une bonne soirée, un bon
week-end, Eric. Salut, Eric.
Et profite bien de cette première place qui est la tienne ce soir.
Oui, j'en profite.
Salut Eric, à bientôt. Allez, bye bye.
Ciao, ciao.
On va prendre un dernier supporter de l'OM dans l'after ce soir. Beaucoup de messages sur le direct studio. Lichiman qui écrit à notre ami Dimitri Payet, qu'en pense-t-on? Ça sent très fort la friture. Théo qui écrit Jonathan, la dernière fois, t'avais dit que Cabot avait un niveau proche de Klos. Et Tito.
Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que Cabot avait pris les souliers de Jonathan Klos au RC Lens et l'avait remplacé au point que les supporters lensois ne sentaient pas trop le départ de Jonathan Klos. Pas tout déformé.
Tito écrit un deuxième Strootman en un peu moins pire.
C'est dur.
Il parlait de Veretout. Dan écrit coucou l'after, c'était Vlahovic et Darwin Núñez les deux joueurs.
Et voilà.
C'est vrai. Merci. Que c'est pas de chance quoi.
Ouais. Non mais
t'as Darwin Núñez.
Ouais, mais Darwin Núñez. Quand Longoria arrive à Marseille il y a 3 ans, qui connaissait Darwin Núñez?
Oui, mais quand on voit l'évolution des trois, quand on voit l'évolution des trois, il y a quand même un gap entre Vlahovic et Darwin Núñez pour l'instant.
Et si jamais, Luis Suarez.
Et j'en veux un peu à notre. C'était pas, franchement, rappelez plus de l'arrière gauche de Marseille sous Roland. C'est grave, quoi.
Toi, t'as bien été chercher sur Google.
Non, mais je voulais vérifier. Non, mais alors, je t'ai sorti l'arrière droit sans sourciller.
Ouais.
Mais c'était Patrick Blondeau et William Gallas. Mais non, c'était Colter.
Sous Courbis?
Eh ouais.
Si tard que ça.
98, il y avait Patrick Colter. La saison 98-99 avec le maillot couleur or. L'attaque Ravanelli.
La saison du presque titre.
C'est du presque titre avec les piqûres dans les vestiaires côté Parmesan. Rappelez-vous de ça?
Non, ça je me rappelle pas par contre.
Tu rappelles pas de Cannavaro qui se pique dans les vestiaires comme ça que c'est filmé avant la finale?
Alors non, je me rappelle pas.
Tu rigoles ou quoi?
Non, mais vraiment je me rappelle pas, mais je remets pas en doute
ce que. Rappelle de ça, Kev.
Non.
Voilà. 23h30, mais t'inquiète pas, tu vas voir, je pense qu'on va avoir plein de messages sur le direct studio. L'after, un dernier supporter, c'est Baptiste, supporter de l'OM qui est là. Salut Baptiste.
Salut à vous les gars.
Salut Baptiste.
Est-ce que Baptiste est un homme heureux comme notre auditeur précédent, ou est-ce que toi t'as envie de râler un peu ce soir?
Non, j'ai pas du tout envie de râler. J'ai juste envie de calmer un peu les choses de manière tempérée et juste pour dire on joue le titre, on n'en sait rien les gars. On n'en sait rien pour la simple et bonne raison que vous avez vu contre qui on a joué jusqu'à présent. Il n'y a pas grand monde qui est dangereux contre qui on a joué. On fait des super résultats, je suis d'accord avec vous. On maîtrise pas forcément les matchs de bout en bout, mais au moins on gagne. Mmh. Et vous avez vu le championnat, on a 10 matchs sur 36 jours. La plus faible équipe, c'est Ajaccio à domicile. Et sinon, le reste, c'est que des gros de Ligue 1 et que de la Ligue des Champions.
Des gros de Ligue 1?
Bah ouais, des gros de Ligue 1. On joue Paris, on joue Lyon. Ouais.
Et oui, à venir, là, les matchs à venir. Est-ce que moi, j'avais pas compris ce que tu me disais, ouais.
Le prochain match, c'est Ajaccio, là, dans une semaine.
Ajaccio,
effectivement, il y a Paris dans 15 jours.
Il y a un enchaînement Paris, Lens, Strasbourg.
Et justement, Baptiste, comment tu vois ce match contre Paris? Parce que nous, objectivement, on a l'impression qu'on se dit que ça peut être une affiche vraiment magnifique, les deux équipes en forme, etc. Ça peut donner un beau spectacle. Est-ce que toi, t'es relativement optimiste ou t'as peur de te faire éclater?
Non, optimiste contre le Paris Saint-Germain, on peut pas l'être, je pense. Sincèrement, par contre, on sait qu'on va rien lâcher, parce qu'on a une vraie arme grâce au coach Tudor, ça c'est sûr. On va pas laisser d'espace. Mais je crois je voulais revenir sur le phénomène de jouer le titre. C'est trop tôt pour le dire. Après la période des 10 matchs qui vont suivre, c'est-à-dire sur les 36 jours, là, jusqu'au 13 novembre.
Tu as raison.
Là, on pourra savoir.
Paris, Lens, Lyon, sur les 1, 2, 3, 4 prochains, 5 prochains matchs.
Et sans compter la Ligue des Champions au milieu.
Paris, Lens, Lyon, Monaco, qui va se coller juste après Lyon, c'est vrai.
Et voilà, c'est pour ça que les 10 matchs, là, j'inclus la Ligue des Champions, où il va y avoir du rythme. Si on arrive à passer ce tournant sans avoir trop de dégâts, sans perdre trop de points, après on pourra se dire le titre, ou alors on peut se dire qu'on est un candidat sérieux.
Non, mais après je te rassure, t'es d'accord avec nous pour dire que ce ne sont pas nous qui avons parlé du titre. Hein. C'est
je le sais, on le connaît le bichon.
Baptiste, merci beaucoup.
Salut Baptiste.
Une bonne soirée, un bon week-end.
Merci à vous les gars, et surtout continuez parce que c'est toujours un régal de vous écouter.
Eh ben, merci beaucoup. Baptiste. On a été content de t'avoir à l'antenne ce soir. Salut Baptiste, à bientôt. Salut Baptiste. Un mot quand même sur Angers, les gars. Ce que vous avez vu ce soir, qu'est-ce qu'il y a?
C'est faible. 20 minutes correctes avec un bloc haut, avec un pressing vers l'avant.
Jusqu'au premier but marseillais, c'est plutôt équilibré quand même cette partie. Avec des occasions.
C'est plutôt équilibré. Par contre, ensuite, il n'y a aucune force de réaction à partir du moment où tu encaisses le premier but, ou à partir du moment où l'OM presse en début de deuxième mi-temps. On sentait clairement que les Angevins, d'ailleurs on le disait pendant le match, que les Angevins allaient très très vite encaisser le deuxième but.
Écoute, les premiers pas de Baticle, Osco était assez enthousiasmant, on se rappelle tous, la victoire contre Lyon, etc. Maintenant, moi je pense que cette équipe doit être capable de faire plus quand t'as des joueurs du niveau de Bentaleb, de Boufal, de Unou. Il y a quand même 2-3 joueurs intéressants, et je pense que collectivement tu dois avoir un petit peu plus d'ambition et tu dois être capable de jouer un petit peu mieux. Et là, ce soir, c'était clairement, ils méritaient rien. Et Marseille a gagné très justement.
Dans un instant, les gars, le Paris Saint-Germain au programme et les infos qu'on vous donne. Mbappé sur le banc, Ekitike titulaire a priori demain contre Nice. Est-ce que Galtier fait une erreur de ne pas les associer? On vous attend au 32-16. Mais d'abord, j'ai un dernier appel que je voudrais prendre. C'est Jason. Jason, supporter d'Angers, qui est là. Ah, salut, ouais. Jason.
Bonjour.
Jason ou Jason?
Jason.
Comment on prononce?
Jason, c'est ça.
Jason.
À l'américaine.
Yeah.
C'est ça.
Monsieur Jean Grand de From LA va dire votre prénom, justement.
Jason.
Voilà.
Mr. Jean Grand.
Ouais, bon. J'ai eu beaucoup beaucoup trop d'anglais qui me sont aimés comme ça.
Ah ouais, bah, il devait se régaler, hein, tu m'étonnes.
Dis-nous. C'est le truc qui me régale pas en ce moment.
Dis-nous, Jazz, qu'est-ce qui se passe avec, avec Angers?
Bah, ouais, ça fait plusieurs fois que je vais au match.
T'étais au stade ce soir aussi?
Ouais, j'étais au stade ce soir aussi. C'est toujours le même problème qui revient, je trouve. Enfin, peut-être qu'à la télé, on voit pas les mêmes choses, mais en tout cas, quand on y est, c'est différent. On sent qu'il y a un manque d'envie des joueurs. Ouais. Je crois qu'il y a un manque d'envie des joueurs. Je sais pas si vous ressentez la même chose.
En même temps, ce soir, Jason, les joueurs, faut dire, c'était peut-être compliqué pour eux. Ils jouaient à l'extérieur, quand même, ce match au Vélodrome. C'était. Raconte-nous vu de l'intérieur, parce nous, on avait les micros de Pierre-Yves Leroux, Xavier Grimaud, on entendait, on a entendu les ovations à la sortie de Clos,
les armes,
etc. Tu confirmes?
Comme d'hab,
Angers. Mais moi, je supporte l'OM de base, mais là, comme c'est Angers, voilà, moi, c'est mon club de cœur. Mmh. Donc moi, j'osais pas faire ça, pas du tout, quoi. Et de voir ça, ça fait mal au cœur. Mais même, dans tous les cas, le stade, même avant le match, il n'y avait pas d'ambiance, et ça, c'est triste, parce que ça fait quand même, même s'il n'y a pas une grosse ambiance à Angers, c'est vrai. Les années précédentes, c'était pas la même chose quand même. Ouais.
Et Jason, tu vas te maintenir, tu penses, ou pas, là, cette année?
Ah bah, franchement, j'ai peur.
Attention au syndrome du nouveau stade.
Aussi, oui, c'est à quoi on pense aussi. Ouais. C'est exactement ça. Non, franchement, c'est fade comme jeu.
Quand je te dis que tu dois être capable de faire mieux avec les joueurs que t'as, comme Ounaï, Ben Taleb, Boufal, t'es pas d'accord?
C'est ça? Ah bah, bien sûr que si. C'est ça qui est étonnant, quoi. Normalement, on devrait progresser chaque année. On a eu des beaux effectifs à chaque saison. Là, il y a des joueurs avec du potentiel, mais on le ressent pas sur le terrain. Il y a, comme je vous dis, un manque d'envie. Je pense qu'il doit y avoir aussi un problème de cohésion dans l'équipe.
Bon, Jason, t'es rentré à la maison, là, ou pas?
Oui, je suis rentré. Ouais. Bon, je voulais aussi dire pour Batik, là.
Ouais, le coach, vas-y.
À chaque réaction d'après match, il voit pas trop de danger, il parle toujours calmement, il n'y a pas de souci, on dirait. Et ça, c'est pour nous supporters, je sers un jour.
En tout cas, merci.
Pas les mêmes choses.
Jason,
merci
d'avoir exprimé ton ressenti à l'antenne. Passe une bonne soirée. Est-ce que dans ces cas-là, tu as envie d'allumer la console et de refaire le match manette en main ou pas?
Bah voilà, tout à fait. Mais j'espère qu'on va se maintenir parce que je suis un supporter depuis des années.
On croise les doigts pour toi et pour Angers. Merci Jason, bonne soirée.
Merci beaucoup.
Salut,
allez,
merci
à bientôt dans l'After. 23h37, l'After en direct jusqu'à minuit sur RMC avec Jonathan McCarty, Kevin Diaz. Dans une dizaine de minutes, l'Olympique Lyonnais au programme. Je vous lirai le communiqué d'OL Group sur la vente qui est donc retardée. Hein. On est le 30 septembre, ça devait être aujourd'hui. C'est la date est repoussée de 3 semaines jusqu'au 21 octobre. Et puis on passera un coup de fil à Apollo Breitner puisque le Bayern s'est imposé 4-0 après 4 matchs sans gagner en Bundesliga. Le Bayern s'est fâché aujourd'hui face au Bayern Leverkusen et même Sadio Mané a remarqué. Le Paris Saint-Germain, les gars, il se félicitait publiquement de son association avec Giroud en équipe de France, un neuf qui lui offre plus de liberté contrairement au PSG. Eh bien, Kylian Mbappé va découvrir un nouveau rôle demain, celui de remplaçant.
Ouais,
il devrait débuter sur le banc contre Nice. Hugo Ekitike sera titulaire pour la première fois à Paris. Christophe Galtier fait-il une erreur de ne pas les associer? Ekitike, est-ce qu'il est ce joueur qui pourrait permettre à Mbappé d'être un peu plus libre, de tourner autour de lui? Supporters parisiens, on vous attend au 32-16. Jonathan, Kevin, erreur ou pas de Galtier? Vous battez pas pour répondre.
Hein, Moi, je trouve que c'est pas une erreur, hein, parce que je suis pas sûr que Hugo Ekitike soit vraiment un avant-centre non plus.
Voilà.
C'est un joueur qui est à l'aise un petit peu dans le même poste que Mbappé et que Neymar pour le coup.
Pas le profil Giroud, quoi.
Non, c'est pas le profil Giroud. C'est un joueur qui est grand pourtant, mais qui est assez fin, qui aime bien avoir de l'espace, qui est assez rapide pour prendre les espaces, pour prendre la profondeur. Et au final, c'est un très bon remplaçant avec très haut potentiel pour Kylian Mbappé. J'aimerais bien les voir par contre ensemble parce que je pense qu'ils peuvent jouer ensemble dans une équipe, mais pas forcément un numéro 9. Pas avec un numéro 9.
Mais pourquoi vous dites que c'est pas un numéro 9 et Ekitike?
C'est un attaquant d'aile.
L'année dernière avec Reims, il était numéro 9.
Il était numéro 9, mais souvent, si tu regardes bien, là où il a été très intéressant, c'est quand il prenait l'espace comme ça, qu'aime prendre aussi Kylian Mbappé, c'est-à-dire entre le défenseur central droit et l'arrière droit, quoi.
11 buts et 4 passes décisives l'année dernière en 26 matchs, parce qu'il était pas mal blessé avec le stade de Reims.
C'est hein, ce qu'il a fait l'an dernier. Mais bien sûr, tout le monde peut jouer, ils arrivent à jouer sans vrai numéro 9 depuis le début de saison. Donc, Hugo Ekitike, il peut jouer avec Kylian Mbappé. Mbappé. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la solution viable à long terme de mettre Hugo Ekitike en tant que numéro 9 en Ligue des Champions, par exemple, ou même dans un gros match de Ligue 1.
Mais déjà, en championnat, là, t'attends la 9e journée pour le titulariser pour la première fois. Il a joué 71 minutes non, depuis après, son arrivée
après ça,
cet été.
Tu vois, Jürgen Klopp le fait aussi à Liverpool, quand, même quand Fabinho est arrivé, qui était un très gros joueur, il est resté quasiment 4-5 mois sur le banc. Il y a toujours comme ça une phase d'adaptation, ça a été pareil pour Diogo Jota. Mais je veux dire, il y a toujours dans ces grandes équipes quand même, il y a des statuts, il y a un équilibre que tu ne peux pas comme ça bouleverser. Et Hugo Ekitike a attendu son heure, il va avoir maintenant peut-être un peu plus de temps de jeu avec l'enchaînement des matchs, il y aura aussi la Coupe du Monde. Donc voilà, c'est un joueur qui a pris son temps et qui va être important pour le PSG.
Alors, Ekitike, à Reims, jouait souvent dans un système à deux attaquants, déjà. Alors, il jouait certes devant, mais il était beaucoup plus. C'est pas un pur numéro 9. Et c'est, je pense, le sens de ce que Kevin veut dire. Par exemple, il jouait avec notre ami Kemal deux, trois fois. D'ailleurs, on salue sa maman, qui nous a reçus à Herbel, à Marseille.
Ah bon?
Et ouais, la maman de Kemal, elle bosse à Herbel. D'accord. Elle faisait partie du comité d'accueil pour l'after délocalisé à Marseille. De l'after et dans les prêts. Ceci étant dit, moi je suis en 100% d'accord avec Kev. Je suis un peu surpris que le principal dossier dont on parle sur le PSG, ce soit la titularisation d'Ekitike et non pas les affaires qui collent au cul de Nasser El Khelaïfi. Ah bah, ça, c'est un autre sujet.
Ouais, t'es, quand tu bosses pas à l'after, tu l'écoutes pas, toi.
Mais si, mais bon,
ça a été énormément traité.
Bien sûr, mais on devrait en parler tous les jours, comme on devrait parler de la Coupe du Monde au Qatar tous les jours. Mais...
Non, alors tu sais pourquoi on n'en parle pas tous les jours? Parce que profitons des rares journées où il n'y a pas de nouveau. C'est le cas aujourd'hui, pour ne pas en parler en fait. On apporterait quoi en reparler aujourd'hui?
Je suis en plein dans la rédaction de mon article pour la prochaine revue de l'After.
Oui, j'ai vu ça sur Insta.
Qatar, ouais. Ceci étant dit, je pense qu'il y a une bonne chose qui est envoyée par Stade News sur Ekitike à la place d'Mbappé, c'est que voilà, bah, c'est bien. Christophe Galtier est capable de ne pas titulariser un des trois. Messi, Mbappé, Neymar, et de les reposer pour les échéances importantes à venir. Ça peut sembler rien comme ça au début du mois d'octobre, mais je pense que ça, c'est de l'argent que tu mets en banque pour le printemps qui sera vraiment le moment qui compte pour le PSG.
Beaucoup de commentaires sur le Direct Studio, notamment alors il y a Ismaël qui écrit: Mbappé avec son melon, vous pensez qu'il pourra résister dans des institutions telles que le Real, le Barça ou même Liverpool qui ont des supporters exigeants? Alfred écrit: tourné, Messi et Neymar lui donnent déjà des passes, combien de buts a-t-il marqué? Et enfin Odus écrit: un attaquant d'aile comme Mbappé, donc, en parlant d'Ekitike, qu'est-ce qu'il fait là alors? Il est grand.
Attaquant d'aile, je sais pas, Kev. Hein. Moi, je vois plus comme un deuxième numéro, un neuf dans un attaquant de soutien. Ben, attaquant de soutien dans une attaque à deux. Attaquant d'aile, non.
On est d'accord.
Bah, attaquant de soutien, c'est ce qu'il faut à Mbappé, quoi.
Bah non, Mbappé, il veut jouer avec Giroud parce qu'il veut jouer avec un pivot.
Parce que lui, il réclame.
Non, Mbappé, il veut jouer avec un pivot.
Deux attaquants dans un système à deux.
Mais avec un pivot.
Voilà.
Et où Mbappé serait l'attaquant de soutien?
Et Ekitike, pour vous, peut pas être ce.
Non,
alors, si, il est plus qu'un pivot, mais.
Peut-être jouer à deux attaquants, mais c'est pas un numéro 9, point de fixation. C'est ce qu'il réclame.
Point de fixation, c'est ça.
C'est ce qu'il réclame. Lui, il réclame un Olivier Giroud ou un Karim Benzema qui sait aussi être un point de fixation, même s'il n'est pas forcément fixe devant une défense, il va décrocher pour faire jouer un autre attaquant.
Comme dirait Eric Guéretz et nos amis belges, un target man.
Eh ouais. Un joueur qui fait la planche.
Voilà.
Appui remise.
Et ce que Giroud a très bien fait pour Kylian Mbappé. Mais
ce que je l'ai fait aussi.
Oui, mais j'ai du mal à voir Ekitike être capable de faire la même chose. Il a d'autres qualités.
C'est pas son rôle.
Et c'est un truc.
Mais en fait, vous dites c'est pas son rôle. Franchement, en fait, son rôle, on sait pas ce que c'est. On l'a pas vu jouer.
Mais on l'a vu jouer.
70 minutes. Moi, je l'ai vu jouer avec Reims l'année dernière. Non, mais dans un environnement totalement différent, je veux dire. Mais peut-être que ça méritait d'être testé, de le voir associé avec Mbappé.
Par contre, mais attends. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, donnons quand même du crédit à Christophe Galtier et à son staff, à Sacramento, etc., pour avoir essayé quand même Hugo Ekitike à l'entraînement, hein, parce qu'il a peut-être joué 70 minutes en championnat, mais des entraînements, il en a fait une bonne cinquantaine déjà.
Acheté 35 millions d'euros cet été. Non, mais j'espère qu'il est pas venu juste pour
payer
aux entraînements.
Les gars, là, il y a
le seul joueur qui a été à cet esprit-là pour être remplaçant.
Il y a pas de doute sur le fait qu'Ekitike est un bon achat pour le Paris Saint-Germain. C'est un joueur d'avenir. Il a montré qu'il avait un talent qui était énorme. Mais là où il y a un problème, c'est que souvent les clichés qu'on a tendance à faire et que beaucoup d'observateurs du football français ont tendance à faire, c'est qu'un mec est grand, il est forcément pivot et bon de la tête et lent. Non, c'est pas ça. Ekitike, il est rapide, c'est pas un pivot. Je trouve que son jeu de tête est très perfectible. De ce qu'il a montré à Reims, c'est un attaquant de profondeur, ce qui peut paraître un petit peu surprenant. Il est grand, mais je trouve qu'il a une très bonne conduite de balle.
Il peut peut-être faire les deux, tu vois ce que je veux dire.
Il est technique. Hein.
Voilà. À l'instant T, non. Est-ce qu'il est capable d'ajouter ça à sa palette? Peut-être.
En tout cas, on a des infos là que vous retrouvez sur rmcsport.fr de Fabrice Hawkins sur l'inside. Comment lui il vit sa situation, Hugo Ekitike. Il espérait évidemment avoir un peu plus d'occasion de se montrer. Il a été aussi frustré de pas être et surpris de pas être appelé par Sylvain Ripoll lors du dernier rassemblement des espoirs.
Autre chose.
Et du coup, il a beaucoup bossé à l'entraînement. Nous explique Fabrice.
Ah bien.
Ça a plu à Christophe Galtier, au staff du Paris Saint-Germain, que la relation technique avec Messi, Neymar, Mbappé progresse chaque jour et
ça c'est un truc que je vais regarder moi par contre. Donc je vais regarder comment, je sais pas si c'est Messi et Neymar qui vont jouer avec lui, mais en tout cas je vais regarder comment les deux autres vont jouer avec Hugo Ekitike. Ouais, parce que quand il est rentré à Clermont, je peux te dire qu'ils l'ont pas calculé. Hein. Ouais, ils calculaient pas Sarabia non plus hein, pour le coup.
Najib me dit dans l'oreille, j'espère qu'il sera meilleur qu'Engog. C'est vrai qu'il y a une ressemblance dans le gabarit, mais.
Bah écoute, s'il fait déjà mieux que Mauro Icardi, ce sera déjà pas mal.
Bah, il est plus Guillaume Moirot, je trouve que N'Golo.
Oui, c'est vrai.
Mais pour le coup, Guillaume Moirot était un vrai joueur de fixation. Enfin, plus un joueur de fixation.
C'est
peut-être
un vrai pivot, Moirot. On te rappelle avec Harding.
Ouais. Sur rmcsport.fr pour avoir tous les détails là sur Ekitike, comment il vit cette situation. 23h45, on est ensemble en direct jusqu'à minuit dans un instant. Polo Breitner nous parle du Bayern qui a gagné un match. C'est un petit événement.
Le troisième meilleur joueur du 21e siècle a marqué ce soir.
Le troisième meilleur joueur du 21e siècle, Thomas Müller.
Exactement.
Voilà. Et puis, je vous donne l'info sur l'Olympique lyonnais, OL Group, qui a communiqué ce soir sur la vente du club qui ne s'est pas faite aujourd'hui. Je vous explique tout dans un instant. L'after.
Tu peux pas mettre Thomas Müller devant Modric quand même.
À tout de suite.
Il y a débat.
Pas aujourd'hui.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot.
Thibaut Giangrande.
Avec Kevin Diaz, avec Jonathan McCarty, avec vous bien sûr au 32-16 si vous voulez nous appeler sur le direct studio, si vous voulez commenter l'émission sur Twitter aussi le hashtag RMC Live ou juste avec vos oreilles. Merci d'être là déjà, ça fait plaisir. Polo Breitner est là, salut Polo.
Bonsoir mon cher Thibaut, bonsoir tout le monde.
Salut Polo.
Le Bayern Munich s'est fâché, Polo, ce soir. Il y a eu un mois de septembre très compliqué en Bundesliga. La trêve a fait du bien, semble-t-il. Victoire 4-0 face au Bayer Leverkusen.
Ouais, tout à fait. Et si tu veux, autant j'étais pas trop craintif avant la trêve internationale, alors que tout le monde s'énervait. Et autant là, je vais pas m'emballer après cette victoire, nette victoire. Déjà parce que Leverkusen ne va pas bien depuis le début de la saison, que Leverkusen passe son temps à se prendre au minimum un but dans le premier quart d'heure. Et comme ils ont un gardien Radecki, j'en peux plus. Il offre deux buts ce soir sur les quatre. Si tu veux, ça devient.
Je vous recommande le dernier, si vous nous écoutez là.
Ah bah oui, extraordinaire là, dans les gags de l'année là, donc c'est assez impressionnant. Donc évidemment au niveau du mental et au niveau du moral, ça fait du bien au Bayern Munich, parce que pendant 15 jours en Allemagne, en dehors de l'équipe nationale, on a passé notre temps en Allemagne à parler évidemment du Bayern Munich qui allait pas, etc. On a même dit que Nagelsmann était en danger, il y a eu les rumeurs Thomas Tuchel, etc. Ce qui est sûr, ça faisait dire d'ailleurs en conf de presse à Nagelsmann que lorsque l'équipe d'Allemagne ne gagnait pas, il était pas forcément responsable, parce qu'apparemment il est responsable de tout ce qui va pas dans le football allemand, c'est Nagelsmann en ce moment en Allemagne. Donc si tu veux, il y avait quand même ce côté, la victoire fait du bien ce soir, elle a été facile, trop facile par rapport au standing théorique du Bayer Leverkusen. On peut d'ailleurs se demander comment ils ont fait pour l'emporter contre l'Atlético de Madrid d'ailleurs en Ligue des Champions, et est-ce que ça va donner contre Porto cette semaine. Mais ce qui est sûr, c'est que Mané a marqué, Musiala encore une fois à 19 ans a fait un match extraordinaire avec un but de
pas décisif. Lui, c'est incroyable.
Devient vraiment impressionnant.
C'est ce qui va être intéressant à suivre dans les prochaines semaines. Est-ce qu'il va être titulaire ou pas? On sait que Gnabry a un peu la tête dans le sac. Coman n'est pas revenu encore de sa blessure, etc. Donc c'est sûr qu'il s'installe.
Ça joue comment, Polo, devant? Les quatre devant là.
En fait, c'est un 4-2-2-2. Théoriquement, mais en fait, ça ils n'arrêtent pas de changer de place systématiquement. Moussiala se retrouve souvent en position de numéro 10, très proche de Thomas Müller. Mané, il se balade un peu partout. Mané, qui est encore une fois assez souvent hors jeu, hein, c'est quand même une de ses grandes caractéristiques depuis le début de la saison. Et puis, tu as comment ça s'appelle? Il m'en manque un.
Sané.
En fait, c'est comme si tu avais 2-10 et un 9,5 Thomas Müller, quoi. Plus un faux 9. Donc ça bouge beaucoup. Devant, ça permute beaucoup. Il y a eu moins, paradoxalement, beaucoup moins d'occasions ce soir que si on prend la moyenne des matchs précédents. Donc il y en a eu une vingtaine quand même, ce qui est assez impressionnant. Mais il y a eu une efficacité qui était là, parce qu'ils ont marqué quasiment dès la deuxième minute. Maintenant, encore une fois, défensivement, Leverkusen a de gros problèmes. Et Rabiti, bon, voilà. Oui.
Une question. 74e minute, Sané qui sort. Choupo-Moting qui rentre. Pourquoi il met pas Matistel là, un quart d'heure de la fin, tu gagnes 3-0.
Non, oui, il le fait. C'est à tour de rôle. Apparemment, il n'y a pas de préférence, ouais, etc. Je pense plus qu'il utilise son Choupo-Moting qui est théoriquement un 9, alors qu'il n'a pas fait sa carrière en tant que 9. Hein. Lorsqu'il joue à Mayence, c'était plutôt en 4-4-2 où il a fait une grande partie de sa carrière aussi au poste d'ailier gauche, malgré son grand gabarit. Donc non, il donne un peu de temps de jeu comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que ce soir, le 11 de départ est à peu près celui qu'on va avoir sûrement contre Pilsen. Okay. D'ailleurs, c'est intéressant dans la semaine. Là, ils ont massacré Leverkusen, ils jouent Pilsen, et puis ce week-end, il y a le match à Dortmund, donc ça veut dire qu'ils le préparent, je pense, d'une très très belle façon.
Et à Paris, souvenez-vous, Choupo-Moting, des fois aussi, il jouait défenseur. Vous vous rappelez, il empêchait les
buts du PSG. D'ailleurs, Polo, il n'était pas ailier gauche, il était attaquant d'aile.
Ouais, non, même il a en un contre un, c'est pas forcément le meilleur du monde non plus. Non. Mais non, à l'époque, il jouait souvent en 4-2-3-1, notamment à Schalke, mais c'est plutôt à Mayence où il jouait en 4-4-2 à l'époque.
Polo, une question, Sabitzer, est-ce qu'il a pris la place de Goretzka au milieu?
Non, alors je pense pas. Alors ce qui est sûr, c'est que Sabitzer nous fait une saison extraordinaire par rapport à celle très moyenne de l'année dernière. Donc il le dit lui-même, hein, il a compris ce que c'est que d'être au Bayern, par rapport à Leipzig évidemment. Mais Goretzka, pour l'instant, comme il revient de blessure, en plus là il y a eu le Covid, donc il était avec Manuel Neuer. Ce qui est sûr, c'est que Goretzka, il est en train de le faire monter tranquillement, donc il va sûrement être titulaire contre Pilsen en Ligue des Champions. Et bien, il y aura une vraie concurrence, je pense, entre les deux, parce que Sabitzer a mis la barre très haut. Quand même.
Ah, il est enfin au niveau après une première année très décevante. Et le Bayern, faut jamais en tirer les joueurs trop tôt.
On revient à 2 points au classement avec un match
du plus grand club des mondes.
après ce premier match de la 8e journée, à savoir l'Union Berlin. Merci Polo, on se retrouve lundi.
Salut, bon week-end.
Comme toutes les semaines dans Génération After, spécial bon drôle de dame. Je sais pas pourquoi je l'ai dit à la Marseillaise. Je t'ai regardé
la
en même temps.
De traîner avec Jonathan.
Oh, ouais, ça doit être pour
ça. Il y a un grand match pour le Bayern. Il y a Pilsen et il y a Dortmund. Ça, il y a Dortmund Bayern la semaine prochaine.
Le derby.
C'est un gros match.
Cet after, quelques infos, je t'ai déjà passé sur la suite. En fait,
tu vas trop vite.
C'est une manière un peu de vouloir te fermer ta bouche pour exécuter la suite. Ouais, le derby.
Je me dire tais-toi aussi, ouais. Ça marche. Hein.
Non, mais c'est moins poli. Les infos du jour. Lyon n'est pas vendu. On est pourtant le 30 septembre, il sera minuit dans 6 minutes et 30 secondes. 29.
Allez.
28. Et Lyon ne sera pas vendu ce soir. Communiqué d'OL Group. Je vous rappelle que depuis le mois de juin, c'était la date du 30 septembre qui avait été prévue pour conclure, pour acter définitivement la vente de l'OL à John Textor. Communiqué donc de l'OL Group ce soir, qui décale de 3 semaines la vente. La date, ce sera désormais le 21 octobre. J'ai perdu le communiqué, mais je vais le retrouver, vous inquiétez pas. Lyon, qui devait donc acter la vente ce soir, ce sera le 21 octobre. Voilà, je retrouve le mail d'Edouard G en direct, tac, qui m'a envoyé le communiqué. Je cite, pour donner suite au communiqué diffusé le 30 septembre 2022, avant l'ouverture du marché, Eagle Football Holdings, dont John Textor, Pathé, IDG, Holnest et OL Group se sont entendus par voie d'avenant à leurs accords sur le 21 octobre 2022 comme nouvelle date pour la réalisation de l'opération. Ce délai supplémentaire sera utilisé pour finaliser la documentation juridique et les dernières étapes préalables à la réalisation de l'opération. Bon, est-ce que vous le voyez comme un petit délai? Ce qu'on nous dit au club, les infos qu'on a, c'est que voilà, plus de 500 millions pour acheter le club, grosse opération, c'est normal, il y a beaucoup de documents, juridiquement c'est compliqué, pas d'inquiétude. Est-ce qu'on se dit quand même que décalé de 3 semaines, on arrive au 30 septembre, bon, c'est pas non plus l'opération.
Mais ce qui est inquiétant, c'est que dans ce genre d'opération d'une telle ampleur, sachant que l'Olympique Lyonnais est coté en bourse, l'OL Group est coté en bourse, tu ne peux pas te permettre des approximations de ce genre-là. À savoir que quand tu fixes une date pour une opération, elle doit être menée à bien pour la date fixée. C'est forcément un petit signal d'alarme. Alors, est-ce qu'il faut être totalement en panique? Je ne pense pas. On verra dans 3 semaines. C'est vrai que c'est une grosse opération et apparemment il y a eu des problèmes qui étaient plus d'ordre administratif. On verra, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est pas un bon signe. C'est pas anodin. C'est vraiment pas anodin.
Toutes les infos là concernant ce communiqué sur rmcsport.fr. Info de la soirée, surprise en Afrique. La CAN 2025 n'aura pas lieu en Guinée. La Confédération africaine lui retire ce soir l'organisation. Les infrastructures ne sont pas prêtes. Et donc la CAF va rouvrir un appel à candidature pour la CAN 2025.
Tranquille, le Qatar va prendre ses stades démontables et faire comme ils ont dit, tu vois, les donner, les offrir à des pays en Afrique. On y croit, ça. Hein. C'est un bon compte de fait. Hein. Ouais.
Puis tiens, je voudrais conclure l'after dédicace pour toi, réel, Jonathan.
Mais non, ils ont promis tous les stades qui sont construits sont censés être démontables et après être offerts à des pays en développement.
C'est comme les tentes, c'est des stades 3 secondes. Tu les jettes et ils se...
En fait, c'est fait avec des espèces de cubes en plastique. Non, mais vraiment, hein, c'est fait avec des espèces de conteneurs en plastique qui sont démontables et c'est comme des Legos, en fait. Ils veulent nous faire croire ça.
Et pour conclure, il y a encore beaucoup d'infos, je pourrais vous donner, mais déjà, vous dire qu'on a un forfait acté en équipe de France pour la Coupe du Monde. Boubacar Camara ne jouera pas la Coupe du Monde. C'est Aston Villa qui l'a annoncé sur le compte Twitter. Il est blessé au ligament du genou. Et donc, pas de Coupe du Monde pour Boubacar
ligament,
Camara.
Ligament, carrément.
Ouais. Jonathan, un commentaire?
Franchement, on ne tire pas sur les ambulances, aucun commentaire. Bon établissement aux joueurs partis à Birmingham.
La Aston Villa. La transition est toute trouvée. Hein, la Coupe du Monde, J-49. Je vous rappelle, peut-être vous l'avez oublié, Jonathan l'a oublié, l'hymne de cette Coupe du Monde. Jim, c'est Ozuna, l'hymne officiel de la Coupe du Monde.
Vous voyez pas, mais il danse. Hein.
Et c'est où, Aston Villa, du coup?
C'est en Angleterre.
Et où?
Jonathan McCarthy.
À Villa Park.
Kevin Diaz. C'est à Birmingham.
Ah oui.
Mais le nom du club, c'est Aston Villa.
Oh, allez. Mais
on n'est pas sur PES 2002 avec les noms de clubs quand ils n'avaient pas les licences.
Ils ne jouaient pas la PlayStation.
Passer de la corniche Kennedy, de Marseille, du panier, de la canne-bière, tout ça à Birmingham. Bon jeu.
Merci Jo, merci Kevin,
merci Thibaut,
merci Adrien au standard, Nagi Toto en régie, merci surtout à vous d'être là comme tous les soirs, surtout ce soir particulier, vous étiez peut-être manette en main, je sais que vous avez été là, donc merci beaucoup. L'after revient demain à 21h, bonne nuit l'équipe, ciao.
RMC, l'after foot.